RCF.
Qu'est-ce que la gloire du Christ ? Nous évoquons avec vous, Marina Copsidas, la toute-puissance de Dieu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre Le Christ Pantocrateur aux éditions de l'Harmattan. Alors effectivement, comment comprendre à la fois qu'un Dieu tout-puissant puisse laisser à l'homme toute liberté ? C'est cette liberté que nous interrogeons aujourd'hui. Comment c'est possible, ce paradoxe de l'homme créé à l'image d'un Dieu tout-puissant, mais qui justement peut exercer sa liberté ?
Alors, je crois que c'est très important dans la Genèse. Il est bien dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc une certaine liberté, et selon sa ressemblance. Et pour moi, la ressemblance, c'est un but à atteindre, puisque Dieu est amour. Donc, l'homme est appelé finalement à suivre Dieu le Père avec, j'allais dire, selon un amour filial, en quelque sorte. Or, qu'est-ce qui arrive ? C'est quand même, l'enchaînement est assez extraordinaire. Genèse 1, création du monde, Genèse 2, création de l'homme, et Genèse 3, l'homme qui effectivement revendique sa liberté en quelque sorte, qui est une autonomie, et qui, sur le conseil du serpent, qui lui dit qu'ils seront comme des dieux si effectivement ils désobéissent à Dieu. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a appelé, beaucoup de pères de l'Église, la chute, et que je préfère, Saint Paul dit, la transgression.
Quelle différence entre être comme des dieux et être à l'image de Dieu ou être à la ressemblance de Dieu ?
À l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est à l'image de Dieu, c'est cet amour filial que fait qu'on va se laisser guider par Dieu. Et rien n'est plus simple quand il va donner les 10 commandements.
Un amour filial, on pourrait vous rétorquer que c'est aussi un amour qui désobéit.
Oui, bien sûr, mais justement, ce sont tous les péchés, les passions. Mais la vraie mission qui nous est donnée, c'est effectivement une vie dans la paix, dans la plénitude, qui est un chemin qui est, malgré les vicissitudes, celui auquel nous sommes appelés à suivre les commandements.
Alors la gloire du Christ, c'est difficile à expliquer, c'est peut-être encore plus difficile à peindre, mais pour saisir la figure du Christ, il faut peut-être revenir à ce qu'on voit de Dieu dans les Écritures. On évoquait à l'instant le Christ, image du Père. Si on regarde dans la Bible comment Dieu se manifeste aux hommes, on peut essayer de comprendre comment Dieu se manifeste dans la Bible.
Ben, d'abord, il se manifeste déjà, ça c'est tout le récit de l'élection des peuples d'Israël, qui étaient donc en esclavage en Égypte, et par l'élection de Moïse, la figure qui est le grand prophète, qui va effectivement suivre l'indication de Dieu et donc se mettre à la tête de ce petit peuple juif pour échapper donc à l'esclavage en Égypte et créer un peuple nouveau élu en Israël.
Donc à la fois la parole de Dieu, à la fois son souffle, ça c'est l'Ancien Testament. Si on se dirige vers le Nouveau Testament, on peut comprendre ce défi posé aux hommes, comment dire l'indicible et ce qu'on évoquait en début d'émission, comment peindre le Christ, quelle est la représentation du Christ dans le Nouveau Testament. Parce que de cette représentation va aussi venir la légitimité à le peindre.
Alors là aussi, peindre c'est quoi ? Peindre c'est peindre le visible. Mais on peut dire qu'il y a 4 représentations. Évidemment, nativité. Le Christ dans la crèche, et Dieu sait que c'est une représentation qui a beaucoup de succès, parlons Noël et sa suite. Après, il y a une représentation, évidemment, le baptême du Christ. Il y a une représentation que j'aime beaucoup, qu'on trouve que dans les icônes, et qui est donc la transfiguration. C'est-à-dire que là, c'est la divinité du Christ qui se révèle à ses 3 disciples, avec auprès du Christ Moïse et Élie, qui montrent donc la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette lumière qui est l'au-delà, évidemment, est tellement éblouissante que les 3 disciples sont bouleversés. Et l'autre représentation ensuite, très forte, c'est évidemment celle de la Passion. Donc, évidemment, le Christ en croix. Il y a, alors là, je précise, deux représentations. En Occident, on représente le Christ mort, ce qui a complètement bouleversé Nietzsche, qui ne supportait pas cette vision. C'est les crucifix partout. Et en Orient, on représente le Christ les yeux clos. Pas mort, les yeux clos, bien sûr, puisqu'il va ressusciter. Et donc, ça, c'est effectivement une représentation très forte, et puisque c'est tout le récit de Pâques et de la résurrection. Alors, il y a aussi cette représentation du Pantocrator, qui est à la fois le Christ vivant, mais vrai Dieu et vrai homme, puisque c'est effectivement l'alpha et l'oméga.
Oui, toute la question, c'est est-ce qu'on met l'accent davantage sur la divinité du Christ ou sur son humanité ?
Ça sera effectivement tout le débat des iconoclastes contre les iconoclastes. C'est son humanité que l'on représente, et Christ qui s'est rendu visible au monde, mais à travers cette visibilité du Christ vrai homme, transparaît quand même la divinité, bien sûr.
Alors, si on parle de cette représentation du Christ, c'est parce que derrière, il y a aussi un enjeu de conversion, par exemple. Le centurion au pied de la croix voit le Christ, est converti. Est-ce qu'on imagine que toute personne qui peut se trouver face à un tableau peut se trouver convertie par justement ce Christ qui a pris corps, qui a pris chair, qui a habité la faiblesse humaine ?
Je pense que on a plus de chances à trouver la conversion quand on contemple la divinité du Christ dans l'icône que quand on contemple un corps mort sur la croix, un cadavre. Ce qui a été effectivement la source de ces écrits tellement violents de Nietzsche qui s'appelle l'Antéchrist et où il a pu conclure que Dieu est mort.
Oui, ça c'est l'orthodoxe qui parle, parce que vous êtes très sensible justement à cette image. Vous pensez que justement il y a quelque chose d'incarné, de puissant dans l'icône, dans le travail
Alors,
de l'icône.
Ce qui est non, justement l'icône dans sa conception est justement pas tellement dans l'incarnation, mais au contraire dans la traduction à travers une image de la transcendance. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que c'est un néoplatonicien qui définit la manière de représenter cette transcendance avec effectivement des normes qui sont de faire disparaître tout ce qui est les volumes, les couleurs, les paysages, tout ce qui est proprement création pour se fixer sur une représentation très hiératique. Qui est un peu déjà hors monde, s'il est presque hors sol, je pourrais dire. Mmh. Et effectivement, c'est cette représentation qui est techniquement celle de l'icône. Quant à son contenu, bien sûr, c'est évidemment les Écritures.
Alors justement, la question qui va se poser tout au long des siècles, c'est comment représenter la transcendance. Les Juifs n'avaient pas le même rapport aux images.
Alors, dans le judaïsme, il faut effectivement dire qu'il y a l'interdiction de représenter Dieu.
Pourquoi ?
Ça découle même des 10 commandements. Bon, parce que faire des images de façon idolâtre, c'est complètement contraire, bien sûr, à Dieu et à ses commandements. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans un autre passage, Dieu donne des indications très précises sur la manière dont doit être conçue et réalisée l'arche. Cette arche, évidemment, qui est le symbole de présence symbolique de Dieu, et que
dans à travers les commandements, justement, voilà. Gravés sur
et,
sur
et les donc tablettes. Dieu donne des indications précises sur la manière dont va être construite cette arche. Donc, ça veut dire que l'artiste qui veut servir Dieu va donc mettre ses talents, ses savoirs au service de Dieu. Au fond, il y a l'artiste qui se promeut en artiste et qui veut sa vaine gloire et qui son autonomie, là encore, et puis celui qui met son talent au service de Dieu.
Donc au fond, ce que vous interrogez, c'est l'intention de l'artiste.
Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il y a eu récemment une découverte au XXe siècle, dans un lieu qui s'appelle Douraropos en Syrie, d'une très vieille synagogue qui avait des fresques. Alors là, on était dans effectivement le culte, puisque ces fresques représentent les prophètes. Donc en réalité, c'est pour appuyer la prière. Ce n'est pas pour distraire, j'allais dire, le fidèle, mais c'est pour, au contraire, l'aider dans sa prière. Ce qui est évidemment le même but pour les chrétiens, bien sûr.
Mais à quel moment on a considéré qu'on ne respectait pas ses commandements? C'est-à-dire à quel moment, au fond, le mouvement iconoclaste a pris une telle ampleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas accepté dans les représentations du Christ? On est beaucoup plus loin dans le temps.
L'iconoclasme, c'est une décision politique prise à l'initiative d'un empereur qui avait grandi dans les milieux d'Orient où il y avait l'islam, donc déjà un petit peu dans un contexte de rejet de l'image, et qui trouvait que sans doute les monastères étaient beaucoup trop puissants et beaucoup trop riches. Il y avait des monastères où il y avait plus de 1000 moines. Et effectivement, comme ils étaient à la source même de création des icônes, donc c'était effectivement des monastères assez riches et assez puissants. Et donc c'est une manière de casser ce monde. Et donc il interdit la création d'icônes, et il y avait aussi quelques excès, effectivement, d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus l'icône liée au culte, mais c'est, j'allais dire, un carré qui effectivement devient carré de bois avec une image qui devient objet de culte.
Merci Marina Copsidas. On poursuivra sur l'icône demain. Bonne fin de journée à demain.
Merci.